Aujourd'hui, c'est samedi, nous sommes le 27 mars, soyez les bienvenus. Le journal, bonjour Adrien Bossard.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Il n'est encore que minoritaire en France, et heureusement, car c'est aujourd'hui le variant le plus résistant aux différents vaccins. Une étude de plus confirme que le Sud-Africain ne réagit qu'à une concentration d'anticorps 6 fois plus élevée. Le chiffre est colossal, 3000 milliards d'euros, montant accordé par les banques françaises aux énergies fossiles en 2020, selon plusieurs ONG. La longue attente d'un mari britannique, sa femme est enfermée depuis 5 ans en Iran, et peut-être enfin l'espoir d'une libération. Et puis quand le mobilier urbain devient un lieu d'exposition, faute de musée, le chat de Philippe Geluck se promène sur les Champs-Élysées.
Et les invités de la matinale, dans une vingtaine de minutes, Patricia Martin, vous recevrez
Dominique Bluzet et Renaud Capuçon, les directeurs du Festival de Pâques, c'est à Aix-en-Provence, et ce sont évidemment des concerts en ligne qui commencent ce soir.
Et à 8h20 ce matin, question à l'historien Vincent Duclerc, le président de la commission chargé par Emmanuel Macron de faire la lumière sur le rôle de la France au Rwanda lors du génocide des Tutsis en 1994.
France Inter.
Et c'est donc aujourd'hui le variant britannique qui préoccupe les esprits, les autorités?
Oui, devenu majoritaire en France, il continue de se propager à une vitesse folle. Plus de 41 000 nouveaux cas hier. Pour l'instant, pas de quoi remettre en cause la vaccination. Les sérums se révèlent plutôt efficaces contre le variant britannique. Mais que se passera-t-il si son voisin très lointain, le Sud-Africain, prend ses aises sur le sol français? C'est le gros point d'interrogation, car une étude de l'Institut Pasteur confirme qu'il est plus coriace face aux anticorps. Véronique Julia.
Le variant sud-africain est clairement moins sensible aux anticorps. Pour le démontrer, les chercheurs ont pris le sang d'une 60aine de patients déjà infectés et d'une 30aine de patients vaccinés. Tous ont produit des anticorps à des concentrations diverses. On a donc observé comment les variants réagissaient. Sur le sang des patients infectés et dont l'infection pouvait remonter jusqu'à 9 mois, le variant anglais réagit comme le virus original. Il est neutralisé par 95% des échantillons et cela, quelle que soit la concentration d'anticorps, l'efficacité est bien en deçà pour le variant sud-africain. Il faut une concentration d'anticorps 6 fois plus élevée pour le neutraliser. Même constat avec les anticorps générés par la vaccination. 4 semaines après la première injection, ils sont moins efficaces avec le variant sud-africain. Là encore, il faut une bien plus grande concentration pour qu'il y ait une réponse. La leçon de tout cela, c'est qu'un patient qui a produit peu d'anticorps ou qui en a perdu au fil du temps pourra rester protégé, mais beaucoup moins s'il s'agit du variant sud-africain. Pfizer et Moderna travaillent d'ailleurs sur une troisième dose dirigée contre ce variant. Elle fonctionnerait comme un rappel pour raviver nos défenses. Des essais cliniques sont en cours.
Une étude publiée hier dans la revue Nature Médecine, elle est à retrouver en détail sur franceinter.fr. En attendant, la vaccination se poursuit en France. Les personnes de 70 à 75 ans sans comorbidité y ont droit dès aujourd'hui. Alors que l'agence du médicament confirme l'existence d'un risque rare, dit-elle, de thrombose atypique liée au vaccin AstraZeneca. Étude menée après la découverte de 6 cas et la mort de 2 personnes en France. Aujourd'hui, un Français sur 10 est vacciné avec au moins une des 2 doses. Autant dire que les effets positifs de la vaccination ne sont pas pour tout de suite. L'heure est toujours aux restrictions et elles se renforcent. L'Aube, le Rhône et la Nièvre rejoignent ce matin la liste des départements confinés, 19 désormais, où les contrôles s'intensifient depuis hier dans les gares, aéroports et péages. Dans cela aussi, à partir de lundi, les classes seront fermées dès qu'un élève, un seul, est positif au Covid. Pour les transfrontaliers avec l'Allemagne, hélas, ça n'est pas du fait de la France, ça va devenir leur quotidien, faire un test Covid tous les 2 jours pour passer la frontière. Car nos voisins nous considèrent désormais comme un pays à haut risque. Les mesures rentrent en vigueur ce soir à minuit pour les Alsaciens, car c'est déjà le cas en Moselle depuis plusieurs semaines. Ce qui va compliquer la vie de pas mal de travailleurs qui se rendent chaque jour en Allemagne, Marie Maheu.
D'abord, il faut bien le dire, la frontière ne va pas fermer comme ça avait été le cas lors du premier confinement. Par contre, le quotidien des frontaliers va être plus compliqué. D'abord, pour les Alsaciens qui travaillent en Allemagne, il sera environ 30 000 et il va falloir qu'ils présentent 2 tests négatifs par semaine. Cela peut être des tests rapides, pas forcément PCR. Même chose pour les déplacements réguliers à motifs familiaux, scolaires ou de santé, à condition de bien les justifier. 2 tests par semaine, c'est confirmé par la préfecture du Bas-Rhin. Reste à savoir où les faire, ces tests. L'Allemagne pourrait installer des stations mobiles pour en faire à la frontière, mais rien n'est encore concrétisé. Les contrôles, eux, seront renforcés. renforcés à partir de dimanche, mais ils ne seront toujours pas systématiques.
Marie Maheu de France Bleu Alsace.
Une question à présent. Est-ce que l'accord de Paris sur le climat est mis à mal par les banques françaises?
C'est ce qu'estiment 6 ONG internationales dans un rapport. Elles assurent que les banques françaises sont les plus grands financeurs européens de pétrole, gaz et charbon. Plus de 3 000 milliards d'euros accordés en 2020 comme un encouragement à développer les énergies fossiles. Tout le contraire, pourtant, de l'accord de Paris sur le climat, Delphine Simon.
À rebours de la tendance mondiale, les banques françaises ont presque doublé depuis 4 ans leurs investissements dans les énergies fossiles, explique Lucie Pinson, directrice de l'association Reclaim Finance, co-auteur du rapport.
Concrètement, on a vu que l'année dernière, il y avait une baisse généralisée au niveau international de 9% des financements aux énergies fossiles. Au contraire, les banques françaises, elles les ont augmentées de 36% entre 2019 et 2020. Et c'est notamment le cas de BNP Paribas, à la quatrième place des banques qui financent le pétrole, le gaz et le charbon.
Cette augmentation exceptionnelle s'explique par la crise mondiale, se défend BNP Paribas. Le constat a de quoi surprendre, alors que la place financière de Paris s'est engagée à bannir les énergies polluantes, sauf que les critères épargnent les gros exploitants du pétrole et du gaz, rappelle Lucie Pinson.
Nous avons notamment identifié des financements massifs, 13 milliards de dollars tout de même, à BP et Chevron, alors que ces acteurs-là font partie des plus gros producteurs de gaz et de pétrole de schiste au niveau international.
Comme pour le charbon, les ONG réclament une ligne rouge. Du côté de BNP Paribas, on reconnaît que les objectifs climatiques peuvent encore manquer de clarté et d'ambition.
Delphine Simon, Emmanuel Macron on salue une avancée considérable pour comprendre l'engagement de la France au Rwanda. Malgré le rapport cinglant transmis hier par des historiens au chef de l'État, il parle de responsabilité accablante d'une faillite de la France lors du génocide des Tutsis en 1994. 800 000 personnes sont mortes en 3 mois seulement. C'est peut-être pour elle la fin d'un cauchemar qui dure depuis 5 ans. Nazanin Zaghari Ratcliffe, une citoyenne irano-britannique détenue à Téhéran, attend fébrilement la décision d'un nouveau jugement qui pourrait aboutir à sa libération. Il peut intervenir ce jugement à partir d'aujourd'hui, car en théorie, sa peine pour complot contre le régime, ce qu'elle nie depuis le début, est purgée. À Londres, son mari, lui, attend qu'elle rentre à la maison. Richard Place est allé le voir pour France Inter.
Richard Ratcliffe s'excuse quand il demande aux visiteurs de se déchausser dans l'entrée. Il précise, Nazanin y tient beaucoup. Emprisonnée il y a 5 ans, torturée, Nazanin a longtemps été privée de contact avec l'extérieur. Depuis qu'elle est sortie de prison, elle peut faire des visioconférences. Elle a retrouvé sa fille, son mari et son appartement.
C'est intéressant de voir combien les changements ici, comme ce mur par exemple que j'ai repeint en bleu et qui ne lui plaît pas du tout, combien ça l'inquiète. Elle a peur d'être oubliée. C'est la raison pour laquelle je n'ai presque rien changé ici. Quand elle reviendra, elle s'associera à ce renouveau. Je pense que ce sera important.
Il est désormais certain que sa femme est victime d'enjeux qui les dépassent. Sans doute un contrat qui date des années 70 entre le Royaume-Uni et l'Iran, les Britanniques n'auraient pas honoré une dette de plusieurs millions de livres. Les autorités iraniennes emprisonnent des ressortissants étrangers comme monnaie d'échange, une conviction que Richard Ratcliffe a forgée auprès de diplomates, d'experts et de familles d'autres prisonniers français notamment.
La plupart des gouvernements préfèrent minimiser cette réalité, la nier, et à la fin, normalement, trouver un accord pour les ramener à la maison. L'Iran a développé cette stratégie de diplomatie des otages parce que ça marche.
Aujourd'hui, leur vie est rythmée par les horaires d'ouverture du tribunal de Téhéran. Londres, Richard Place, France Inter.
L'actualité également, c'est ce gros chat sur les champs.
Le chat de Philippe Geluck, il se balade depuis hier sur des sculptures monumentales installées sur les Champs-Élysées. L'expo Le chat déambule prend ses quartiers sur l'avenue parisienne Alexis de Maizière.
Bienvenue aux Champs-Élysées de la Concorde au Grand Palais. Ce sont 20 statues en bronze pesant 1 tonne et mesurant 2 mètres qui portent la griffe de Philippe Geluck. Une expo de sculptures sur les champs, c'est du jamais vu depuis Botero en 92. De quoi rendre très fier le dessinateur belge.
C'est ça qui est drôle, on commence sur la plus belle avenue du monde, donc forcément les suivantes qu'on va faire seront un peu plus moches. Non, c'est juste inouï, c'est un truc auquel on peut même pas rêver. J'y ai jamais pensé de ma vie. La première fois, c'était il y a 3 ans quand je me suis dit on va faire ce truc. Le chat est sur les Champs-Élysées quelques années après De Gaulle et le chat va dire Paris infecté, Paris vacciné et Paris libéré.
Paris amusé aussi, par exemple quand le chat se déguise en petit rat de l'opéra sous le titre Tutu et Gros Minet. Il faut dire que le concept de cette expo se prête particulièrement bien à la situation sanitaire.
Je suis pile dans la ligne de ce que disait Jean Castex Félix. Sortez, aérez-vous, ne restez pas trop proches les uns des autres. Donc ici, les œuvres sont sorties dans la rue pour aller vers tout le monde. Et si ça pouvait être le signal des jours meilleurs.
Après Paris, les statues félines de Philippe Geluck continueront de prendre l'air à Bordeaux, Milan, Genève et enfin Bruxelles en 2024 pour fêter l'ouverture du musée du chat, cette superstar de la BD auprès de 15 millions d'albums vendus.
L'expo Le Chat déambule sur les Champs-Élysées, ce sera jusqu'au 9 juin. Et puis le 15 de France termine finalement deuxième du tournoi Destination après sa défaite hier contre l'Écosse, 27 à 23.
C'était le journal d'Adrien Bossard. Le temps de ce samedi.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Ah, ce sera un classique hein, aujourd'hui. Nuages au nord, soleil au sud, Jean-Pierre Rameau.
Oui Eric, hein, et même si vous avez observé un beau lever de soleil en Ile-de-France par exemple, hein, eh bien les cumulus vont se développer en cours de matinée pour prendre assez rapidement l'avantage dans la moitié nord du pays. Avec ces nuages, prévoyez quelques averses par endroit et plutôt le long des frontières du nord. En revanche, vous profitez déjà d'assez belles éclaircies dans le sud-ouest et d'un grand soleil près de la Méditerranée. Et puis grâce à une belle poussée anticyclonique, le soleil va gagner du terrain pour s'imposer cet après-midi des Pyrénées au massif alpin. Mistral et Tramontane vont souffler entre 50 et 60 km par heure dans leur domaine. Côté température, les maximales évolueront entre 10 et 20 degrés du nord au sud. Et pour terminer, Eric, hein, bonne nouvelle, le soleil et la douceur vont s'imposer demain sur une grande partie du pays et vous en profiterez jusqu'à mercredi.
Bonne nouvelle, comme vous dites, Jean-Pierre Rameau, de Météo France.